écoutez KTO Radio, il est 20h. Tout de suite, les vêpres à Notre-Dame de Paris.
Le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Il voulait la rendre sainte en la purifiant par le bain du baptême et la parole de vie. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Il la voulait sainte et irréprochable.
Et nous rendons grâce à Dieu en écoutant de Monteverdi Laudate Domino. Frères et sœurs, en cette fête du Sacré-Cœur qui commence, nous invoquons Jésus. Jésus crucifié, de ton côté ouvert ont coulé l'eau et le sang. Entends la prière de l'Église, ton épouse.
Jésus, temple saint de Dieu, demeure du Très-Haut, porte du ciel, construis ton Église. Jésus, ami des hommes, frère des pauvres, maître de tous les cœurs, souviens-toi de ton alliance. Jésus, notre paix et notre réconciliation, soulagement de ceux qui peinent, repos de nos âmes, attire vers toi les pécheurs. Jésus, chemin des brebis, agneau vainqueur du péché, notre vie et notre résurrection, donne-nous accès auprès du Père. Jésus, obéissant jusqu'à la mort, transpercé par la lance, enveloppé dans le suaire, réveille ceux qui dorment dans la mort.
Bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce toujours plus abondante. Par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur.
Radio. Méditation présente La Minute avec Marie.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière du Souvenez-vous de Saint Bernard. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, par les mains de Marie, je t'offre ma vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Téléchargez Méditation, la première application de méditation chrétienne en français.
Un mois d'accès gratuit avec le code KTO.
Écoutez KTO Radio.
On va parler de la question de l'infertilité. Qui peut-être résonne un peu différemment aujourd'hui, quand le printemps arrive, c'est toujours un petit moment où c'est peut-être un peu plus difficile à vivre, où on voit des enfants sortir un peu partout, on voit encore des mamans enceintes, parfois il y a des baptêmes, des choses comme ça, et des rassemblements qui peut-être fatiguent un petit peu plus, peut-être donnent un peu de peine. Voilà. Nous, on va essayer, là, pendant cette table ronde, de raconter un petit peu comment on peut essayer de traverser cette épreuve qui touche beaucoup plus de monde que prévu, ou qu'imaginé. Alors, on va commencer tout simplement par le commencement. Mathilde et Enguerrand, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter ?
Oui, bonjour à tous. Donc, Mathilde et Enguerrand Petit. Donc, nous sommes mariés depuis 10 ans et nous n'avons pas la chance d'avoir des enfants. Alors, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Mais aujourd'hui, voilà, nous sommes quand même heureux dans le chemin qu'on a pris. Et avec Enguerrand, on organise des week-ends pour les couples en espérance d'enfants, les week-ends Esperanza, dont on a posé des petits tracts sur la table. Voilà.
En deux mots, c'est quoi le week-end Esperanza ?
En deux mots, c'est un week-end qui se veut fraternel, voilà, pour simplement partager sur la souffrance qui nous est commune, mais également pour passer un bon moment, pour rire, voilà, pour vivre un week-end entre amis.
On refait le spectacle de Mehdi en un week-end.
D'accord. Véronique Bournineau.
Bonjour.
Qui êtes-vous ?
Je suis Véronique Bournineau, je suis mariée et mon mari et moi sommes parents adoptifs de 4 enfants. Je travaille à la Fondation Le Jeune et nous sommes mariés depuis bientôt 18 ans. Et de fait, nous avons traversé, mon mari et moi, cette grande épreuve de l'infertilité. Et nous avons aussi vécu la grande puissance du sacrement de mariage et le jaillissement de fécondité qui sort de ce terreau de la souffrance et du renoncement de l'infertilité. Voilà.
Alors, vous allez nous aider à poser un petit peu la chose. De quoi parle-t-on quand on parle d'infertilité ?
Alors, de quoi on parle quand on parle d'infertilité ? D'après l'OMS, l'infertilité, c'est l'absence de grossesse, l'absence de conception, après 12 mois de rapport sexuel complet, régulier, non protégé, sans contraception. Donc, quand on parle d'infertilité, on parle bien de couple hétérosexuel en âge de procréer. Et quand on parle, on réservera le terme de stérilité, lui, aux situations des couples chez qui il y a eu absence de grossesse pendant 2 ans, enfin après 2 ans de rapport complet, non protégé, régulier, sans contraception, et chez qui il y a une situation avérée qui a été diagnostiquée et qui explique la cause. Alors que dans l'infertilité, il peut y avoir des couples chez qui on n'a pas trouvé d'explication à l'infertilité. Voilà. Et ça concerne maintenant beaucoup de monde.
Les grossesses qui n'arrivent pas à terme, ça rentre dans l'infertilité ?
Les grossesses qui n'arrivent pas à terme rentrent également dans l'infertilité. On va parler alors d'infertilité secondaire. Non, pardon, les grossesses qui n'arrivent pas à terme, vous parlez des fausses couches. Oui. Les fausses couches, alors ça dépend des cas. Normalement, généralement, l'infertilité, c'est vraiment la situation où justement il n'y a pas de grossesse qui soit mise en route. Donc c'est un petit peu différent. En revanche, les infertilités secondaires, c'est-à-dire les situations d'infertilité, quand dans le couple il y a déjà eu une grossesse, oui, mais après pour X raisons, il n'y arrive plus à y avoir conception, là on parle bien d'infertilité secondaire.
Alors vous étiez en train de dire que l'infertilité, notamment en France et peut-être dans le monde, est en croissance, stagne, on connaît un peu les raisons ?
L'infertilité est en croissance, elle est en croissance dans les pays développés, elle est en croissance dans les pays en voie de développement également. Les chiffres sont quand même très impressionnants, hein, parce qu'on estime, enfin les derniers chiffres de l'OMS qui sont sortis en 2023 évaluent en termes de statistiques que 47,5 millions de couples seraient concernés dans le monde. Ça veut dire à peu près 186 millions de personnes, 17,5% de la population en âge de procréer, donc c'est très important. Un couple sur 6 serait aujourd'hui concerné par l'infertilité. Alors les raisons sont évidemment multiples, hein. L'infertilité est toujours multifactorielle. Dans nos pays développés, parmi les raisons les plus évidentes, il y a d'abord le recul de l'âge de la première maternité, qui est vraiment la cause épidémiologique la première et la plus importante. En France, dans les années 70, la première grossesse de la femme était établie vers 26 ans. Aujourd'hui, la première de la femme est établie après 31 ans. Donc évidemment, connaissant le cycle naturel, ça glisse. Ensuite, il y a d'autres causes. Il y a les maladies sexuellement transmissibles qui sont favorisées à l'adolescence par la promiscuité sexuelle qui elle-même est favorisée par la pratique généralisée, enfin les pratiques contraceptives généralisées. Il y a aussi l'environnement, la pollution de l'environnement et notamment les perturbateurs endocriniens qui seraient une des causes principales expliquant l'infertilité masculine. Et dans les pays en voie de développement, va s'ajouter à cela les situations de MST non traitées, donc
les maladies sexuellement transmissibles.
Exactement, qui ne sont pas traitées. Et puis aussi les avortements thérapeutiques qui ont été faits dans des mauvaises conditions et qui vont évidemment abîmer le corps de la femme, malheureusement. Et puis la pollution dans les pays en voie de développement qui est très importante et qui influe très fortement l'infertilité dans ces pays-là. Voilà.
On met combien de temps à savoir qu'on est vraiment concerné par l'infertilité, sachant que ça marche pas toujours à chaque fois, la nature fait que...
Alors c'est vrai que de manière générale, quand ça fonctionne de façon ordinaire, de toute façon, normalement, je crois que c'est 25% des grossesses arrivent du premier coup entre guillemets Et généralement 80% des couples mettent 6 mois à réussir à établir une grossesse. Dans l'infertilité, la médecine de l'infertilité recommande d'attendre un an avant de consulter et de chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à établir une grossesse. Voilà, le temps est toujours un allié pour favoriser la venue de la vie.
Voilà. Merci Mathilde et Enguerrand. C'est bien ces chiffres, mais la réalité quand elle vous arrive sur vous, c'est autre chose. Ça se vit comment ?
Alors c'est difficile, surtout au début. Déjà, faut consulter. Il faut en avoir conscience, et c'est ce que tu disais, Véronique. Le temps est un allié, mais le temps peut paraître très long. Et quand on va voir la première fois un médecin qui vous dit « Non, mais ça fait 9 mois, c'est pas grave. » En fait, voilà, c'est quelque chose qui est difficile, qui est long. Et pour autant, je trouve que la plus grande difficulté, c'est de mettre un mot sur le sujet. Et nous, c'est ce qu'on a vécu dans notre couple. Déjà, prendre conscience de ce sujet. Et puis, oser en parler au sein du couple. Donc, la première chose a été, en tout cas pour nous, de mettre un mot et de se le dire.
Qu'est-ce qui fait que justement on a du mal à s'en parler, même dans le couple ?
Parce qu'on a simplement, on comprend pas l'autre, on comprend pas sa souffrance, on sait pas ce qui nous arrive. Tout ça déboule un petit peu et nous chamboule. Et comprendre, mettre des mots sur ce qui nous arrive, c'est déjà d'une certaine manière l'accepter, et on veut pas accepter ce qui nous arrive. Donc on le refuse, et le refuser, c'est ne pas communiquer dessus, et donc ça envenime ou ça complexifie justement cette prise de conscience et cette première communication au sein du couple sur le sujet de l'infertilité.
Ça va chercher un petit peu loin aussi dans notre personne, c'est-à-dire est-ce que je suis entièrement moi si je n'arrive pas à avoir d'enfant, ça va jusque-là ?
En fait, c'est pas quelque chose de normal et d'ordonné. Nous, avec Enguerrand, quand on s'est mariés, on s'était fait... En tout cas, on avait le vœu d'accueillir la vie. Et donc, si vous voulez, quand vous avez tout prévu, nous, on avait prévu... Enfin, moi, j'avais dans ma tête, je me suis dit, je vais me marier à 28 ans, j'aurai 4 enfants. Alors, je me suis mariée à 28 ans avec l'homme que je voulais, que je désirais.
Celui qui est drôle et intelligent,
celui qui est drôle,
comme vous l'avez
intelligent
mis dans la presse.
Et ingénieur, très important. Et puis la suite, en fait, elle n'est pas prévue. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Donc, c'est difficile aussi d'accepter le fait qu'on ne maîtrise pas tout. Et que, voilà, c'est la première chose, je trouve, c'est que ce n'est pas quelque chose d'ordonné. Et le corps de la femme nous le rappelle tous les mois. Donc, c'est pas normal.
Et l'entourage, parce que l'entourage a sa place. Les parents, les amis, ceux qui sont au départ à faire « Vive les mariés !» et après qui disent « Oh, dis donc, ça fait un an, va peut-être falloir avoir des enfants. Eh, ça fait 2 ans, vous pensez qu'à vous, il faut des enfants. » Et à la fin, on a envie de gentiment les repousser un petit peu violemment, non ?
Oui, et déjà, la question aussi, tous les jours qu'on peut nous poser, « Et alors, vous avez combien d'enfants ?» En fait, on n'a pas cette chance-là. L'entourage, disons qu'au début... Il est un peu perdu, il est déboussolé aussi, parce que je pense que dans nos familles, nos amis, eux, s'attendaient à ce que la vie arrive assez vite. Donc au début, ils se sont dit, bon, ils veulent prendre du temps peut-être, et puis ensuite, le tabou s'installe. Donc l'entourage, je pense qu'il est tout autant déboussolé que nous. Et puis savoir aussi quoi dire, comment être délicat en voyant qu'on peut vivre ce sujet aussi nous douloureusement. Donc je pense que d'abord il faut savoir gérer ça, déjà en couple, s'aider l'un et l'autre pour ensuite gérer l'entourage. Mais l'entourage, il peut gérer tout seul aussi parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est pas bon. Alors bien sûr, dans nos relations, au boulot, au travail, les gens sont peut-être un peu maladroits, mais on leur en veut pas. Et à nous, en fait, de les aider aussi à savoir casser le tabou. Par exemple, la question, est-ce que vous avez des enfants ? Alors nous, on s'est fait une réponse un peu toute faite, c'est on n'a pas la chance d'en avoir. Donc déjà, les gens en face de nous comprennent. Mais on a aussi tendu de perches à nos amis, à nos familles, en leur disant, un jour, on a voulu mettre le sujet sur la table et on leur a envoyé une lettre pour leur dire, voilà ce qui nous arrive, voilà notre souffrance, vous avez le droit de nous en parler. Et je pense que c'est aussi à nous de leur tendre un peu des perches.
Si on est prêt, au moment où on l'est prêt, et je pense qu'on est aussi en capacité de, voilà, si c'est trop compliqué, si c'est trop douloureux, simplement de dire, c'est pas le bon moment, je suis pas prêt à en parler, et puis on peut en reparler un peu plus tard.
Alors, il y a plein de techniques qui aujourd'hui permettent, tout en restant, dans l'enseignement de l'Église, d'essayer de stimuler un peu les différentes parties du corps chez l'homme et chez la femme, ce qui fait que ça repousse aussi le moment où on est sûr de ne pas pouvoir avoir des enfants. Mais est-on, sauf quand il manque carrément, un utérus par exemple, mais est-ce qu'il y a des moments où on est complètement sûr que ça ne marchera pas et qu'on n'aura pas d'enfants ? Parce qu'on a tous lu des témoignages avec tout d'un coup des enfants qui sont arrivés après 5 ans, 10 ans, alors que ça ne devait pas arriver physiologiquement.
Je pense qu'il y a autant de situations qu'il y a de couples sur la Terre, et il y a beaucoup d'infertilités qui sont inexpliquées. Le principe de l'infertilité, c'est que ça n'est pas une stérilité, donc la grossesse peut survenir. La grossesse peut survenir, Mehdi l'a raconté avec beaucoup d'humour, il en a des spermatozoïdes, hein. Ils sont un peu cabossés, mais il en a. Il en suffit d'un, finalement, vous voyez. Donc, l'infertilité, c'est très mystérieux. Ça nous rappelle une chose, c'est que la vie est un don, la vie est très mystérieuse. On n'arrivera jamais à tout maîtriser, on n'arrivera jamais à en comprendre tous les tenants et les tas aboutissants. Et je crois que ça rappelle une chose, c'est que la vie, il faut l'accueillir, et parfois elle met du temps à venir, ça c'est sûr. Après, la médecine de l'infertilité peut faire beaucoup de bien au couple, et malheureusement aujourd'hui la médecine de l'infertilité a souffert du développement de la PMA. La PMA n'est pas une médecine de l'infertilité, puisque la PMA ne diagnostique pas et ne soigne pas. La PMA, c'est un contournement
de la médecine. La procréation médicalement assistée,
exactement.
Ce qu'on appelait avant les bébés éprouvettes.
Oui, exactement. Enfin, il n'y a pas que ces petits bébés-là, mais oui. De fait, voilà, c'est ça. La médecine de l'infertilité, c'est vraiment une médecine qui est centrée sur le couple. Donc, elle va d'abord chercher à réduire la tension psychique qui existe dans le couple. Elle va chercher à l'accompagner, elle va avancer pas à pas. Elle va chercher à diagnostiquer du plus simple au plus complexe. Donc, on va passer en revue vraiment tout ce qui fait organiquement la conception. Du côté de la femme, du côté de l'homme. De fait, ça passe par ces examens qui sont très invasifs, dont a parlé Mehdi dans son spectacle. Donc, ça rappelle une chose, d'ailleurs, c'est que le couple a beaucoup besoin d'être accompagné dans la médecine de la fertilité. Et c'est pour ça que le médecin qui accompagne un couple dans la médecine infertile, avant d'être un technicien, il doit vraiment avoir une déontologie humaine pour accompagner ce couple dans ce cheminement de deuil, qui est un cheminement de petit à petit de deuil et de renoncement. L'objet propre de la médecine de l'infertilité, c'est vraiment d'aider un acte conjugal naturellement accompli à obtenir sa fin. Donc ça va passer par aider l'ensemencement à aller plus loin dans les voies de la femme, ça va passer par le fait de traiter les spermatozoïdes, ça va passer par le fait de réparer ce qu'on peut réparer, etc. Quand tout a été exploré ou réparé, s'il y avait des choses à réparer, et que la grossesse ne survient pas, le rôle du médecin, ça va vraiment être d'être un accompagnateur pour le couple, pour le conduire à une voie de sagesse, une voie de maturation profonde, qui est aussi l'acceptation de l'infertilité et le deuil de l'enfant biologique. Donc ça va être vraiment un chemin d'accompagnateur, de renoncement. À sa façon, il va être un accoucheur, sauf qu'il va être un accoucheur de ce renoncement. Mmh. Voilà.
On peut être foyer, couple, sans enfant.
Oui, tout à fait.
Bien sûr.
Et je pense que Et je pense que en fait, ça revient aux sources aussi un petit peu de notre mariage où, quand on s'est marié bien sûr, avec l'espérance d'avoir des enfants, mais d'abord on s'est marié parce que on s'aimait et donc pour s'accueillir et se donner l'un l'autre. Et je pense que c'est ça aussi qui fait le socle de notre vie commune. Et en fait, ce chemin de l'espérance d'enfant nous permet aussi de découvrir petit à petit, de se découvrir l'un l'autre et de découvrir la force de notre couple, la force du chemin que l'on peut parcourir ensemble. Donc c'est un beau chemin, c'est un chemin qui est parfois difficile, sur lequel il y a parfois de nombreuses pierres inattendues, des ravins, des torrents à traverser, mais on est encore une fois, on est à deux, encordés, et on peut vraiment être un foyer heureux.
Et un foyer aussi qui peut trouver sa place dans la société. Alors c'est pas simple, on le voit bien aussi dans nos milieux d'église, dans nos paroisses, il peut y avoir des propositions pour les jeunes mariés, pour les célibes aussi, et puis les couples sans enfants, on a un peu du mal à trouver notre place, et pour autant, comme le disait Enguerrand, le fait d'avoir du temps pour creuser et travailler notre couple, qui est vraiment ce pourquoi on s'est marié, ça nous a aussi, et ça donne l'envie et la disponibilité aussi de s'engager pour d'autres couples. Alors c'est Esperanza, mais pas que. Nous aussi, on trouve on trouve notre place, en tout cas, dans la préparation au mariage de notre paroisse. Et puis aussi, le fait de traverser la souffrance et l'épreuve, ça nous met un peu dans une démarche de compassion. Compassion, souffrir avec. Et toutes les œuvres de compassion, on sent qu'on peut aussi trouver notre place auprès d'autres personnes qui souffrent.
Bon, l'air de rien, là, on est entre chrétiens. Quand on se retrouve confronté à cette situation qui est partie pas pour une semaine ou un mois, on n'a pas juste serré les dents, mais apparemment c'est parti pour la vie. Est-ce qu'il n'y a pas tout d'un coup une sorte de colère qui peut venir du fond, c'est-à-dire Seigneur, tu m'as mis dans le cœur ce désir d'enfant et pas les moyens de le vivre aujourd'hui ni demain. Est-ce que ça bouscule, ça donne pas des crises de foi?
Alors au début, et je vais un peu paraphraser ce que disait Mehdi tout à l'heure. En fait, moi, je revois l'image du Christ sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et je pense que c'était un peu le premier cri qu'on a eu. Et essayer d'être dans le « pourquoi ?» Mais en fait, le « pourquoi ?» c'est pas la solution. Et Dieu, avec le Christ, nous donne des pistes aussi pour trouver un chemin.
Et ensuite, le Christ, il nous donne aussi un appui sur lequel on peut vraiment s'appuyer. Il nous donne des grâces de consolation. Avec Mathilde, on a l'habitude de faire des exercices de relecture à différentes fréquences. On en fait une fois par mois et puis une fois par an, pour élargir un petit peu le scope. Et ça nous permet de voir un petit peu dans toute l'année qu'on a vécu les lieux où de joie ou alors des lieux de peine, mais où on a pu être consolé. Et cette consolation, Mathilde et moi, on croit vraiment que c'est aussi Dieu qui est là à nos côtés, qui est l'ami fidèle et qui nous accompagne pour traverser les épreuves. Et donc, Dieu nous permet, le Christ, notre rocher sur qui on s'appuie, nous permet d'aller plus loin, de traverser et d'oser faire un pas supplémentaire chaque jour.
Ça n'empêche pas de vivre des moments de gros désert, de crise et limite même au sein du couple de solitude existentielle. C'est-à-dire qu'il y a un moment où même l'autre comprend, oui, il comprend un peu, mais pas exactement ce qu'on vit et on se sent très seul, non?
Alors, on se sent seul, mais mystérieusement, c'est notre histoire, c'est pas celle de tout le monde, mais en fait, on n'a jamais été au fond du trou au même moment avec Enguerrand, et c'est pour ça qu'on aime bien parler de l'image de la cordée. Quand il y en a un qui est en bas, il y a toujours l'autre qui essaye de le relever. Et ça, c'est à notre avis une des grâces aussi du mariage chrétien, c'est le fait d'être encordé, et on peut compter sur l'autre, l'ami fidèle qui est le Christ, mais qui est aussi incarné par notre époux, pour nous aider à sortir de là. Alors oui, on pleure, oui, on crie, mais on a mystérieusement quelqu'un pour nous aider.
Et puis, cette souffrance nous a permis aussi, comme on disait tout à l'heure, d'apprendre à se connaître davantage. Et voilà, c'est pas de la télépathie, mais quand il y a des situations où je sais que Mathilde va être plus fragile, notamment quand il y a des femmes qui sont enceintes et qui sont où on voit physiquement qu'elles sont bien enceintes, et ben dans ces cas-là, je sais que je vais avoir une attention qui va être plus attentive vis-à-vis de Mathilde.
Et à l'inverse, quand quand il y a un papa avec son fils de 3 ans et on voit cette intimité entre les deux, je sais qu'Enguerrand, c'est quelque chose qui va le blesser, qui va rouvrir un peu la blessure. Et donc, c'est dans ces moments-là où on va se rapprocher. Il y a cette intimité, on apprend à se connaître et on se tire. Et voilà, vraiment l'image de la cordée.
Et chez les Bournino?
Alors nous, on a été, ça nous a plongé dans un très grand désespoir et dans une très grande colère. J'ai été férocement jalouse. On en a voulu à la terre entière. C'était trop difficile, on était beaucoup trop jeunes. Mon père était tétraplégique, mon beau-père était mourant d'un cancer, il y avait trop d'épreuves. Donc on n'a pas compris et accessoirement, on n'y avait pas pensé parce qu'on pensait que justement, il y avait eu suffisamment d'épreuves dans nos familles pour que ça nous ravive, ça nous arrive. Et puis vous savez comment c'est quand on a 24 ans, on est jeune, on est beau, tout roule. Et donc c'est le temps de l'insouciance. Donc évidemment, on n'était pas du tout prêt à accueillir la souffrance. Donc voilà, donc on peut relire 18 ans plus tard, nous qu'on a mis 10 bonnes années d'infertilité et 3 adoptions à faire le deuil de l'enfant fait maison et à accueillir cette vraie grâce de consolation dont vous avez parlé, qu'on a également expérimenté aussi et pour laquelle on peut dire aujourd'hui qu'on a été totalement consolé, je crois pas par nos propres forces, mais véritablement par une grâce surnaturelle qui est venue nous chercher dans le terreau de notre désespoir. Voilà. Dans tous les cas, ce que je veux dire aussi, c'est que comme toute souffrance, il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon de vivre la souffrance. Quand on souffre beaucoup, on souffre comme on peut. Et vous savez, les gens disent facilement « elle n'a pas d'enfant, elle le vit mal » ou « ils n'ont pas d'enfant, ils le vivent mal ». Et en fait, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de souffrir. On souffre et on fait ce qu'on peut quand on souffre. Voilà, donc voilà.
Et alors, comment on fait pour ne pas se protéger en devenant, par exemple, indifférent avec un cuir épais comme ça et qui fait qu'on ne regarde pas, en fait. Donc, on apprend que la belle-sœur attend son 5e bébé et qu'elle râle en plus parce qu'il est arrivé tout de suite, alors qu'elle aurait aimé avoir un peu d'espace entre le 4e et le 5e. Comment on fait pour ne pas lui sauter à la gorge? Et comment vous faites, surtout?
On le fait un peu.
Oui, d'accord.
Non, mais les choses, voilà, tout, c'est très imparfait et il y a des fois on y arrive et ça se fait bien et d'ailleurs ça rend très heureux à l'intérieur. Et puis il y a des fois c'est beaucoup plus difficile et pour le coup, je crois vraiment que le temps fait son œuvre pour arrondir et puis il y a surtout des jaillissements et il y a des jaillissements de fécondité dans le mariage. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'infertilité ne prive pas le mariage de sa signification. Le mariage, il est fondamentalement sponsal, c'est-à-dire qu'il est fondamentalement fait pour l'amour don de soi. Cet amour, quand on est marié, on le vit dans le couple. Donc ça, c'est un premier point qui est un socle, le socle dont a parlé Mathilde et dont a parlé Enguerrand. En fait, même dans une situation d'infertilité, on continue à être à deux et à s'aimer. Et puis, je crois fermement que le sacrement de mariage rend l'amour... On est destiné à un amour trinitaire, donc fertile ou infertile. On est destiné à favoriser le jaillissement du tiers. Et je crois que le sacrement de mariage, cet amour qu'on se voue entre époux, eh ben il est fait pour qu'il y ait des jaillissements de fécondité. Et dans la situation d'infertilité, alors il n'y a pas le jaillissement de fécondité naturel de l'enfant fait maison, de l'enfant biologique, mais il va y avoir d'autres jaillissements de fécondité. Ça peut passer par l'adoption, mais ça peut passer par des tonnes de fécondité qui sont des œuvres de charité et qui nous permettent de vrai. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Mathilde.
Ouais, je laisserai Enguerrand parler de la fécondité, mais je voudrais revenir quand même sur... En fait, nous, on se donne le droit d'être en colère aussi quand on nous annonce une bonne nouvelle. Pour certains, on se donne un temps. Voilà, on a le droit pendant quelques heures de ne pas se réjouir, d'accepter en fait, de laisser le temps. Tu parlais du temps comme allié, mais voilà, là, c'est un temps plus ou moins court. De laisser ce temps nous traverser pour ensuite se réjouir vraiment. Et par exemple, nous, on a demandé à nos amis d'essayer de ne pas nous annoncer de grossesse en live, parce que clairement, moi, ma réaction, je ne pourrais pas me réjouir. En revanche, nous l'envoyer par message, par courrier, par lettre, ce que vous voulez. Voilà, on prend le temps, on laisse la colère monter, et puis ensuite, voilà, on se donne le droit aussi de pleurer, on se donne le droit de crier, et puis ensuite, on prend le bonheur et on l'accepte et on se réjouit avec les autres. Mais je pense que c'est important, en tout cas, nous, on a trouvé que c'était important de se donner ce droit à la colère.
Et puis, c'est aussi important de savoir aussi se protéger, parce que même si ça nous donne un cuir épais, voilà, on a une blessure, et bah voilà, quand il y a un baptême et qu'on est au fond du trou, bah c'est pas la peine de remettre du sel sur la plaie, et bah il faut savoir aussi ses limites, et bah voilà, si on va pas bien, on a le droit de dire bah je peux pas venir, je suis pas bien, ou on n'a pas à donner d'excuses, mais voilà, il faut aussi accepter ses faiblesses, sa souffrance, et ne pas vouloir voilà, lutter et se faire mal pour rien.
C'est bon pour soi et puis c'est bon pour les autres, parce qu'on est d'autant plus on serait pas agréable pour les autres, en fait, donc on protège aussi nos amis.
Alors, ce que vous nous dites, c'est que pour traverser cette épreuve de l'infertilité, c'est pas juste une histoire de volonté où avec nos petits bras on va réussir à gérer la chose. Il faut vivre cette étape de souffrance comme on peut, essayer de se préserver comme on peut, j'imagine avoir une vie de prière aussi toujours plus implorante pour peut-être compenser nos failles et mettre plutôt du baume sur notre douleur, c'est bien ça? Et alors, ça apporte du fruit?
Bah, la prière, encore une fois, Mathilde parlait du temps, Véronique également, et je pense que le temps fait son œuvre, et le temps est un allié, parce que le temps va panser la souffrance. Et voilà, Mathilde et moi, on a confié cette souffrance, on l'a confiée au début en criant un pourquoi, en demandant au Seigneur, Seigneur, voilà, tu as béni notre mariage et tu as béni voilà, les enfants que tu voulais que nous ayons, et puis rien ne se passe. Et ce temps et la prière, comme Mathilde le disait, se sont changés en un comment, mais je pense que surtout c'est le temps qui fait son œuvre, et la prière nous permet aussi, avec le temps, d'entrer dans un chemin de consentement, d'acceptation de ce qui nous arrive. Et je pense que à un moment on est fatigué de lutter, on est fatigué de se révolter, et le seul chemin de salut, le seul chemin, voilà, qui nous permet de vivre avec ce boulet qu'on a au pied, mais ce boulet qu'on peut réduire, c'est simplement de l'accepter. Parce que si on lutte trop, c'est comme si on remettait de l'air dedans qui gonflait, qui grossissait, qui s'alourdissait. Et en fait, le moins on lui donne de place, le plus il se rapetisse, et le plus il devient léger. Mais pour entrer dans ce chemin de consentement, qu'est-ce que c'est difficile, et qu'est-ce qu'on trébuche, et qu'est-ce qu'on retombe à chaque étape. Quand on croit qu'on a passé un pas, on refait deux pas en arrière, et c'est vraiment un chemin sur lequel on avance avec le temps et avec la grâce de Dieu, voilà, au travers de la prière personnelle, conjugale.
Oui, je suis d'accord avec toi, et peut-être qu'il est bon de rappeler que, en fait, l'infertilité, c'est crucifiant, et que je crois que notre Seigneur, quand il fait vivre l'épreuve de l'infertilité, il propose d'une certaine façon qu'on s'unisse étroitement à sa croix, très étroitement à sa croix. Et de fait, je crois qu'on expérimente avec les années, dans cette épreuve de l'infertilité, que très étroitement unie à la croix, derrière, il y a la grâce de la résurrection. Et donc, il y a véritablement un jaillissement qui paraît invisible.